SKS, S comme sport.
S comme sport.
Bonsoir et bienvenue, merci de nous rejoindre ici sur RKS dans l'émission S comme sport. On est ensemble de 19h à 20h pour parler sport. Et ça s'est fini il y a quelques jours me semble-t-il, c'est Roland Garros. Bonjour à mon invité Jocelyn Salé, salut.
Salut, bonjour Fab.
Alors c'est bien ça, ça s'est fini hein, Roland Garros.
C'est fini
hier. Voilà, parce que je ne connais rien forcément. Donc on va parler de Roland Garros avec quelqu'un qui n'y connaît rien. Et c'est ça qui est important parce qu'on va pouvoir partir depuis le début. C'est-à-dire d'ailleurs Roland Garros c'est qui? C'est quoi? Pourquoi?
Roland Garros, c'était un aviateur en fait, rien à voir avec
le tennis. Ah oui, le tennis en effet, rien à voir.
Rien à voir, et c'est une vieille histoire, hein. C'était au début du XXe siècle, quand le tennis commençait à prendre de l'essor, notamment aux États-Unis, en Australie, en Angleterre et aussi en France.
Yes.
Tous ces pays avant la France avaient des grands stades pour accueillir la grande compétition qui était la Coupe Davis.
D'accord.
Et la Coupe Davis, c'est un peu le format Coupe du Monde en fait, les pays affrontent des pays au tennis. Et il manquait un stade en France et du coup bah, c'est le Racing Club de France qui s'est proposé de construire un terrain sur ses propres terrains et il voulait rendre hommage à l'un de leurs licenciés qui s'appelait Roland Garros, qui lui était plus rugbyman avec un peu aussi de cyclisme.
D'accord.
Mais c'était pas vraiment un tennisman du tout Roland Garros, c'était un aviateur. Il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il est mort pendant la Première Guerre mondiale en héros.
D'accord.
Et avant tout ça, il a même révolutionné un peu l'aviation moderne avec les combats aériens, etc. Un grand monsieur, donc.
D'accord. Voilà.
Et pour lui rendre hommage...
Ils ont fait le stade.
Exactement. Ses amis du Stade de France...
Une belle histoire.
Français, pardon, lui ont dédié le nom du stade.
Très bien. Roland Garros, ben voilà, on se couchera moins bête, comme on dit. Donc, c'était à Paris, il y a... Combien de temps alors? C'est fini il y a quelques jours là, ouais.
C'était la finale homme, ça se termine tout le temps par la finale homme le dimanche quand il fait beau.
Forcément.
Quand il fait beau, même si maintenant il y a un stade, il y a un toit, on en parlera. Mais ouais, ça a duré 15 jours, un peu plus. Il y a eu de la chance avec la météo, plus
ah oui,
ou
ouais.
moins. D'habitude, ça se passe au printemps. Ça se passe sur la dernière semaine de mai, première
semaine
de
juin. Ah oui, mais c'est vrai que ça a été décalé du coup, avec une histoire de...
Voilà. Avec une histoire de petit virus qui traîne.
Il paraît, j'ai
entendu parler vaguement. Mais du coup, avec ce petit virus, bah, c'est toute la saison qui s'est décalée
ouais.
en fait. Depuis début mars, où il y a eu, on va dire, un seul gros tournoi qui est l'Open d'Australie. La saison de tennis, elle est calée d'une année à l'autre. Hein. Il y a des gros tournois qui sont calés à telle période. La saison commence avec l'Open d'Australie.
Mais c'était quand ça alors?
L'Open d'Australie, c'était au mois de février, si je ne dis pas.
Ah, mais donc ça a eu lieu?
Ça a eu lieu.
Et donc tout le monde pouvait voyager, il y avait tout le monde, c'est
tout
bon?
Tout le monde, il n'y avait pas de restrictions encore au mois de
D'accord,
février.
D'accord,
c'était la belle.
J'ai oublié, ça fait tellement longtemps.
Ouais, c'était jadis.
Voilà.
Et tout le monde voyageait jusqu'en Australie. À l'époque, l'Australie, il y avait eu un autre souci, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était les feux de forêt.
En effet, ouais, c'était assez hallucinant.
Voilà,
ouais.
Et du coup, il y a eu même certains joueurs qui ont été, une joueuse notamment, qui a abandonné parce qu'elle toussait tellement l'air était
un
peu saturé en fumée.
Incroyable.
C'était une image un peu triste de voir la joueuse justement un peu à l'agonie.
Ah ouais, ouais, hallucinant, j'avais pas entendu parler de cette histoire, mais ouais.
Et bon, du coup, le tournoi s'est déroulé normalement avant le virus. Comment dire, il y a une classification dans les tournois professionnels. Il y a les grands chelems, les quatre grands chelems qui sont les plus gros tournois qui existent au monde. L'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open à New York.
D'accord.
Et du coup, après, il y a une autre catégorie un peu en dessous qui s'appelle les Master 1000. Ils sont 9.
Et on en parle alors qu'ils sont que 9?
Ils sont 9 le tournoi, alors qu'on parle des grands chelems, ils sont que 4.
Mais, oh mon dieu, ok.
Mais voilà, c'est plus le tournoi est important, moins il y a de tournois en fait. C'est logique.
Et du coup, les places sont chères.
C'est Master 1000, la saison s'est arrêtée au moment du tournoi d'Indian Wells, qui est l'un des plus gros tournois du monde, qui ne s'est pas disputé justement parce qu'il n'y avait pas les conditions requises pour que ça joue. Et à partir du mois de mars, je crois, quand ça s'est arrêté, bah, il n'y a plus de tennis jusqu'à là, la reprise fin août.
D'accord.
Autant d'ailleurs, on peut en parler aussi, autant pour les professionnels que pour les amateurs.
Oui, c'est vrai.
Voilà, par exemple, pendant le confinement, moi j'ai écrit à ma mairie, je leur ai dit est-ce que je peux aller jouer tout seul avec ma raquette et ma balle contre le mur? On m'a dit non.
On
sait jamais, des fois que la balle ou la raquette te contamine.
Voilà, exactement.
Pas, le mur, peut-être quelqu'un l'aura léché.
Et maintenant encore d'ailleurs, t'en parlais, on peut pas jouer à l'intérieur si.
Alors maintenant là, surtout, alors c'est ce qui se passe à Grenoble, hein, c'est un peu ce qui nous intéresse aussi sur l'agglo en fait.
Ouais.
On a le droit de jouer en extérieur.
Oui.
mais on n'a pas le droit de jouer, les adultes en tout cas n'ont pas le droit de jouer en intérieur.
Incroyable. Du coup, les gosses, ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur.
Exactement. Il y a des cours avec les enfants, il y a des profs, il y a des initiateurs qui donnent des cours avec des enfants. Mais voilà, mais je devais aller à l'entraînement samedi, je me suis pointé, on m'a dit bah non, il pleut, les terrains extérieurs sont mouillés, à l'intérieur, t'as pas le droit, rentre chez toi.
Mais c'est fou que quand il pleut, vous jouez pas au tennis. Petite nature, non,
on a peur de l'eau, en fait, on sait pas nager entre les tennisman.
C'est donc ça. Et pourquoi ça, c'est vrai. Et Roland-Garros, ça se passe sur du gazon, c'est la terre battue.
C'est de la terre battue, c'est ça. En gros, il y a plusieurs surfaces au tennis. T'as la terre battue à Roland-Garros, faut voir ça comme
Le stabilisé de foot.
Voilà, exactement. Un peu de choses près, c'est exactement ça. En mode un peu plus fin, avec les grains un peu plus fins.
Ouais, parce que c'est plus riche le tennis, donc ils vous ont tamisé avant de vous faire jouer.
C'est exactement ça. Et à l'ancienne, il y avait, c'était majoritairement des terrains en gazon. Quand je te parlais de Roland-Garros au tout début, là, au début du XXe siècle, c'était des terrains en gazon, vraiment comme un green de golf. Quoi.
Mais avec les allers-retours, ils ont creusé des tranchées. Donc ils ont... Stop ! Arrêtez de faire ça.
Il y avait trop d'entretien, il y avait un budget jardinier qui était énorme.
Oh, purée.
Et voilà, historiquement, on jouait sur gazon. Le dernier gros tournoi qui se passe sur gazon, c'est le Grand Chelem de Wimbledon. C'est le plus vieux tournoi de tennis du monde, hein, qui a plus de 100 ans. Et oui, c'est vrai, mais comme tu le dis, à la fin de la semaine, on joue plus sur du sable que sur de l'herbe au final. Ouais. Parce que t'imagines les gens qui piétinent surtout sur la même surface.
Et donc ça... en plus, c'est vrai, d'accord.
Ah, c'est vraiment vrai. Hein, s'il y a vraiment des tranchées, tu vois la marque du terrain au début de la semaine et à la fin, c'est plus du tout la même chose. Et là, pour ce qui nous intéresse, du coup, la terre battue, il faut la mouiller un petit peu, il faut l'humidifier forcément. Parce que sinon, ça. Ça fait de la poussière, tu vois plus rien, tu peux même plus respirer. Et en plus de ça, tu la mouilles un petit peu pour que elle prenne le rebond, etc. Bon, ça c'est des aspects un peu techniques.
Ah, ça y est, ça rentre dans le technique.
Et là, justement, mais c'est pour ça qu'il y a le lien, c'est que là, on a joué presque au cœur de l'automne, alors que normalement, ça se passe au printemps, en été, avec des conditions plus sèches normalement, alors que là, c'était humide, avec une balle qui du coup était plus lourde. C'est comme si tu jouais avec une balle qui faisait un kilo de plus, on va dire. Quoi,
parce qu'elle a pris l'humidité, elle prend le.
C'est pas forcément la balle qui prend l'humidité, c'est la terre qui s'alourdit en fait techniquement.
Donc ça rebondit pas pareil.
Et donc ça rebondit, on va dire, un peu moins, ça prend moins le rebond et la balle est beaucoup plus lourde. T'imagines les joueurs qui frappent très 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 fort, je pense notamment à Nadal, qui a dû s'adapter aussi forcément, mais qui met énormément de poids dans la balle, et là avec les conditions humides, c'était encore plus dur de renvoyer sa balle.
D'accord.
C'est peut-être pour ça qu'il a gagné, on va en parler dans pas longtemps.
Ah, dis pas, je savais pas moi.
Je t'ai spoilé direct.
Attends.
C'était un semi-spoil quand tu connais le tennis, franchement.
C'est comme au foot, c'est toujours Ronaldo qui gagne. Hein.
C'est un peu ça. Okay. T'as Ronaldo Messi et là en ce moment, t'as Djokovic et Nadal.
Bon, ça marche. On se fait une petite pause musicale, alors très courte, avec Nirvana. Rape Me, tu connais ?
Je suis loin d'être bilingue, mais je vois ce que ça veut dire. Je chanterai pas. Peut-être que je chanterai, mais il faut couper le micro.
On fait ça. Allez, à tout de suite sur RKS, on est en direct.
Rape me, rape me, my friend, rape me, rape me again. I'm on the own. Rape me. rape me again.
On adore ici sur RKS Nirvana à l'instant.
RKS, S comme sport. S comme sport.
De retour dans l'émission S comme sport, on va parler tennis, on va continuer à parler Roland Garros, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Et avec mon invité, Jocelyn Salé. Salut Joss.
Salut, salut.
Toujours en forme?
Toujours, toujours.
Oh, c'est beau. On a fait un petit point sur qui était Roland Garros. Donc déjà, c'est un aviateur, pas un tennisman. Si vous débarquez à l'instant, sachez-le. On a fait un petit point sur... sur le jeu, la condition météo, mais on a à peine abordé le sujet, on va en parler un peu plus. La météo et le Covid, est-ce que ça a embêté un peu nos joueurs et nos joueuses?
Alors déjà, la météo, forcément, on joue en automne. La petite innovation de Roland-Garros cette année, c'est le toit.
Arrête, ils ont couvert.
Ça a l'air ouf, mais ouais, il y avait un toit à Roland-Garros.
Ça va être quand même moins embêtant que de couvrir un stade de foot en même temps, c'est plus petit ça.
C'est plus petit, mais c'est technique, parce qu'il faut le rentrer, il faut le sortir, il faut tout ça.
Ah mais c'est amovible.
C'est amovible,
ouais.
Du coup, normalement tu joues en extérieur, et quand il pleut, tu mets le toit en fait.
C'est un toit, c'est un stade cabriolet, c'est incroyable.
Exactement ça, c'est l'expression que j'allais... Tu m'as volé ma vanne.
Ah mince, pardon, oh non, on refait. Ah non, on veut pas, on est en direct.
Ah bah. Non, en fait, le toit, ça.
Mais c'est une bâche, c'est quoi?
Non, c'est un vrai toit en dur. Faut voir ça comme des ailettes, en fait, qui se déplient comme
la
ça.
La technologie,
ça a été,
un peu. Incroyable.
Ça a été décrié, critiqué, parce que sur les premiers jours, en fait, il pleuvait pour de vrai. Du coup, on a testé le toit en conditions réelles. Et la mauvaise surprise, c'est que malgré les millions que ça a coûté, le nombre de cerveaux qui ont réfléchi à tout ça, il y avait des petites fuites quand même, d'une part. Et en plus de ça, apparemment, moi, j'ai pas pu vérifier ça, parce que j'y étais pas, hein, j'ai pas eu mon accréditation à RKS d'ailleurs.
Et j'ai compris le message.
En fait, les gouttes de pluie faisaient du bruit, en fait, comme quand tu joues dans un hangar ou dans.
Ah,
voilà, tu vois, t'imagines les gouttes de pluie qui tombent. Là, en plus, avec le Covid, il n'y avait pas vraiment beaucoup de spectateurs, du coup, j'imagine que ça résonnait, et quand il pleuvait vraiment à verse, ça devait faire un boucan infernal, quoi.
Ah ouais, infernal cette histoire, c'est
infernal.
Vrai.
Infernal. Et forcément, bah, les joueurs, même quand il pleuvait pas, il faisait pas chaud. Hein. On a eu des situations assez dingues où tu vois des joueurs, des joueuses qui arrivent vraiment sur le terrain en kawé. Et tu te dis, bah, ils vont se mettre à l'aise, ils vont jouer en short et tout ça. Non, ils restent.
Arrête, c'est vrai ça.
En pantalon avec le legging ou les manches longues.
Attends, les filles n'avaient pas leur jupe?
Elles avaient la jupe, mais avec pour la plupart, un
legging dessus. Je vais passer pour qui, pourquoi? Donc je regarde pas le tennis quand tu arrives. C'est vrai, c'est bon.
Bon. Mais ouais, un peu vêtu et forcément bah, avec du vent, avec de l'humidité, avec des conditions dont on n'a pas l'habitude. D'habitude, à cette époque-là, on joue en indoor, on joue dans des salles et on joue pas, surtout à Paris, voilà, sous 10-12 degrés, sachant que dès qu'il y a un peu de pluie, bah, comme tu as dit tout à l'heure, on interrompt le match. Mais avant de l'interrompre complètement, de dire aux joueurs, aux joueuses, vous rentrez dans le vestiaire, bah, y a un temps de est-ce que ça va continuer, est-ce que ça s'arrête ou pas. Et il y a des joueurs, des joueuses qui ont même pété les plombs en disant, mais moi, j'attends pas sur ma chaise là, il pleut, il fait 10 degrés, je rentre et vous m'appelez quand on recommence, quoi.
Ah ouais.
C'était des conditions, voilà,
une
pas faciles.
Belle édition, Roland Garros.
Il y a eu des choses à dire, des choses à raconter. Ouais.
Et niveau fréquentation, du coup, c'était comment ça? Parce que c'est des petits stades en même temps. Est-ce qu'on peut remplir un stade pareil ou...
Ouais, au Roland-Garros, on peut remplir, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est entre 10 et 15 000, je crois, le central de Roland-Garros.
Ouais.
Je dirais 12, vérifié en direct.
Attention, faut que t'as pas
minateur. Et là, si tu veux, bah, par exemple, moi, j'avais des places pour aller voir le premier tour.
Ah.
Et très rapidement, au mois de mars, on m'a dit, bah, du coup, le tournoi est décalé. Parce qu'on ne peut pas le jouer, parce que c'est confinement, parce que ce n'est pas safe en ce moment. Du coup, on le décale à l'automne, sachant que d'autres tournois, comme Wimbledon par exemple, n'ont pas réfléchi. Ils ont dit, nous, on annule complètement.
Et on fait 2021. Ils sont
on fait 2021. Bon, après, je ne te cache pas que c'est une histoire d'assurance aussi derrière.
Ah.
Wimbledon, ils étaient assurés, même s'ils annulaient, ils touchaient de l'argent de la part de l'assurance. Roland-Garros, ils n'avaient pas la même assurance, du coup, ils étaient obligés de le décaler pour les droits télé,
quand
pour
on...
tout ça.
Ouais, j'aime quand on parle franchement sur RKS. C'est
une histoire de gros sous derrière, on ne va pas se mentir. Hein,
voilà. C'est bien que tu le dises.
Et après, bah, la fréquentation, c'est comme au foot, comme d'autres sports, si tu veux, ça ramène du beurre dans les épinards, mais le vrai nerf de la guerre, l'argent,
télé,
bah, c'est la télé, c'est les droits télé. Et là, du coup, il y a eu plusieurs limites, on va dire, qu'ils ont limité au départ à 5000 personnes, 5000 spectateurs,
ouais.
la précision est importante. Et après, avec la restriction Paris en zone ultra-rouge ou je ne sais plus quoi, c'est descendu à 1000 personnes, mais 1000 personnes dans le parc de Roland-Garros.
Ah oui, d'accord.
Bah, alors... là, je précise ça parce qu'il faut imaginer que chaque joueur, enfin surtout les joueurs, les meilleurs mondiaux, ils sont vachement bien encadrés. Ils ont un entraîneur pour le tennis, ils ont un entraîneur physique, ils ont un physio, un kiné, un médecin. Enfin voilà, chaque joueur est entouré, on va dire, d'un petit staff autour de lui.
La moitié, c'était le staff, quoi.
Voilà, donc du coup, la moitié, c'est le staff. Dans chaque tableau, tableau homme, par exemple, il y a 128 hommes qui jouent. Tableau femme, il y en a 128. Tableau double, etc. Enfin voilà, t'imagines ça, plus ça, plus ça, plus tout le staff.
Ah ouais.
Au final, il n'y avait pas 1000 spectateurs.
Même
beaucoup moins. Après, bon, là, je ne sais pas comment ça s'est passé, si il y avait vraiment 1000 personnes, comment ça a été compté, comment ils vérifiaient, s'il y avait des checks de température, des trucs comme ça. Ça, je ne sais pas du tout. Le seul truc que je peux te dire, c'est que la bulle liée au Covid, elle était un peu plus souple que ce qui s'est passé juste à la reprise à New York.
Ah, on en reparlera, ça aussi.
Ouais, parce que les Américains, ils rigolent pas, justement. Ils rigolent pas avec les Français, encore plus. Parce que voilà, je te disais qu'il y avait 4 grands chelems.
Ouais.
Normalement, le 4e et le dernier, c'est New York. New York s'est fait, on va dire, sur les dates qui étaient,
qui étaient
prévues. Et par contre, ils ont fait une vraie bulle, un peu à l'image de la NBA qui s'est passée à Disney.
Mais ça, j'ai même pas vu. Tu vois, on apprend plein de choses ici. Alors, mon invité va mourir en direct, il s'étouffe.
Rien à voir, mais je fais pas de basket. Mais ce qui s'est passé pour la NBA, c'était le premier sport, je crois, aux États-Unis qui s'est arrêté.
D'accord.
Bon, c'est peut-être l'un des sports qui ramène le plus d'argent aussi, on va pas se mentir. Ils sont arrêtés parce qu'il y avait des joueurs positifs et du coup, bah, forcément, dans la même équipe, il y a des checks et tout ça. Il y a des discuter.
Puis il se passe les douches, enfin, bref.
Sans doute, surtout au basket. Surtout. On va se faire des amis ce soir.
C'est clair.
Et du coup, ils ont arrêté la NBA complètement assez tôt, je crois que c'était fin février, début mars. Et c'était les premiers, par contre, à reprendre. Et pour reprendre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont privatisé Disney, le parc Disney à Orlando.
En effet, il y a des sous, comme tu disais.
Voilà. Et du coup, bah, tous les joueurs étaient dans un hôtel, une équipe, un hôtel, tac, tac, tac. Et chacun, personne ne se croisait, à part le jour des matchs. C'était vraiment une bulle. Ils étaient enfermés, zéro spectateur, rien du tout.
Ouais.
Et pour le tennis, ils ont essayé de faire la même chose, où il y avait un fameux Master 1000 avant le Grand Chelem de l'US Open. Donc,
yes.
Reprenons un peu plus petit pour se préparer. Qui se passe normalement à Cincinnati, c'est le Master de Cincinnati. Bah là, le Master de Cincinnati, c'est joué à New York, en toute logique, tu vois.
C'est oui.
Voilà. Et du coup, bah, y avait une bulle. Les joueurs étaient vraiment enfermés, surveillés, checkés, contrôlés 1 million de fois par jour. Et au milieu de tout ça, bah, y a forcément eu un cas positif.
Oh non.
Chance pour nous, c'est un joueur français.
Oh mon Dieu.
Qui racontait après sur les réseaux sociaux qu'il a été, il a été dégagé du tournoi. On lui a dit disqualification, merci, au revoir, t'es positif. Après, bon, l'histoire a voulu qu'il y ait des tests positifs, négatifs. Enfin, voilà, on a jamais su le fin mot de l'histoire.
Oh, purée.
Il a été, clairement, enfermé dans sa chambre. Lui, il voulait rentrer en France, se préparer pour Roland-Garros, pour la terre battue. On lui a dit non, tu restes ici, il y a 10 jours de quarantaine, t'es enfermé, il y avait un mec devant sa porte et ça rigolait pas. Et ça allait même plus loin, parce que ce joueur français, il était forcément en contact avec d'autres joueurs français notamment. Bah, les autres joueurs français, pareil, quarantaine, enfermé dans la chambre.
Hallucinant.
On rigole pas, quoi.
L'Américain ne rigole pas.
On rigole pas du tout. Et par contre, zéro spectateur. Ce qui s'est passé, ça peut être intéressant aussi pour la suite, c'est sur un terrain de tennis, il n'y a pas que les deux joueurs et l'arbitre. Il y a des ramasseurs de balles.
Oui, ouais.
Il y a aussi ce qu'on appelle des juges de ligne. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont à moitié accoupris, là, et ils font des « Haute ! Haute ! »
Ah, ça veut dire que c'est dedans ou pas dedans.
Exactement. Ils regardent une ligne bien précise et ils vont te dire « Oui, faute » ou « Alors, elle est dedans ». Ils font des gestes pour qu'on comprenne.
Oh,
À New York, là, si tu veux, c'était une première mondiale, c'est qu'il n'y avait pas de juge de ligne.
Caméra, ils ont fait comment ?
Exactement, ouais, c'était en mode caméra, comme la VAR au foot, quoi.
Des chômeurs de plus.
Et exactement. Exactement, c'est triste. Et l'arbitre, en gros, c'était juste quelqu'un, un speaker qui annonçait le score. J'ai rien contre les speakers.
Non, bien sûr. Ah ouais, donc.
Mais voilà, il avait perdu sa notion d'arbitre parce que c'était la caméra, c'était. Voilà, il y avait une faute quand la balle était dehors, il y avait faute qui criait, mais il n'y avait personne qui criait. C'était un ordinateur et c'était tout.
Et plus de fautes ou pas ? Non, comment ça ?
Et du coup, bah, normalement, il n'y a plus d'erreur dans ce cas-là, quoi. L'arbitre, il a juste à annoncer le score, c'est la machine qui fait le boulot pour lui, quoi.
Oh, c'est incroyable.
C'est là où c'est peut-être le futur, on ne sait pas. Voilà, il y a eu débat autour de est-ce qu'on garde ce principe-là ou pas.
On en parle là tout de suite. Est-ce qu'on le garde ce principe-là ?
Bah, Honnêtement, moi en tant qu'amateur, j'en rêve. Je rêve de ça, des rencontres du dimanche où.
T'as pas la mauvaise foi des gens et
enfin, j'ai pas. Voilà, les gens ils veulent gagner. Des fois, ça va très vite. Au-delà de la mauvaise foi, des fois ça va très très vite. Hein. Du coup, tu peux pas te dire elle est dedans, elle est dehors. C'est l'avantage de la terre battue en fait. La terre battue, il y a une marque. Par exemple, à Roland Garros, là, il n'y a pas d'arbitrage vidéo du tout. Parce que si jamais il y a un litige, bah, l'arbitre descend et puis la marque elle touche pas, elle est sur la ligne, elle est dedans, elle est dehors.
C'est vrai.
Alors que sur dur, bah, ça laisse pas de marque et du coup, c'est là où la vidéo prend.
J'ai peut-être une idée alors. Sens.
Vas-y, dis-nous tout.
Une balle avec de la peinture. Comme ça, moi, t'es sûr que. Voilà, je propose.
Je vais le noter, je vais proposer à mes collègues. Voilà. Ça peut être pas mal.
N'hésite pas, mais ça sort d'ici, vous le savez. Ben. Ouais. Voilà.
petite anecdote intéressante, peut-être ou pas. Pourquoi est-ce que la balle de tennis est jaune?
Ça, c'est vrai. Alors que dans d'autres sports, elle est noire, comme le hockey sur glace, c'est noir, alors qu'on pourrait la voir jaune, ce serait mieux, on verrait peut-être mieux, je sais pas. Bah, mais pourquoi jaune
c'est
alors?
C'est lié à ça, sachant que je vais t'embrouiller encore plus, parce qu'il y a longtemps, avant les années 70, les années 60, on va dire le début du tennis professionnel tel qu'on le connaît, la balle était blanche. Et c'est quand on a commencé à mettre les matchs à la télé qu'on s'est dit, mais attends, la balle blanche, en fait, elle va tellement vite, on la voit pas.
Ah ouais, c'est pas
et
bête.
Du coup, il y a eu des tests apparemment. Ils ont testé plein de couleurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée comme toi de peindre les balles. Ils ont dit, on va garder le côté jaune fluo, on verra mieux la balle à la télé.
Ouais, c'est vrai que c'est pas bête cette histoire. Ah bah ouais, bah alors pour le hockey sur glace, faudrait faire quelque chose aussi pour le palais quand même. Hein, parce que ça va beaucoup trop vite. Et...
Je pense que pour le hockey, il faut même un truc lumineux.
Plusieurs palais, voilà, ça c'est une autre idée. Covid, donc oui, il y avait personne en stade. Personne à Roland-Garros, pas beaucoup en tout cas.
Pas beaucoup, on était. Et là encore, il y a eu débat sur la finale. Ils ont dit, voilà, il y a eu tirage au sort. Au début, il y avait les gens qui avaient acheté leur place.
Ouais.
Parmi les gens qui ont acheté leur place, on en a tiré au sort 5000. La jauge, elle s'est descendue pour une ville comme Paris, du coup, on en a tiré au sort plus que 1000.
Aïe, aïe, aïe.
Et c'était, moi, je pensais que c'était vraiment les 1000 chanceux. Sauf que quand tu regardes la finale, c'est là où il y a peut-être une injustice, mais il y avait le prince de Monaco, il y avait Kev Adams, il y avait des célébrités comme ça. Et je me dis, putain, mais ils ont de la chance quand même, ces célébrités, d'avoir été tirés au sort. c'est merveilleux. C'est là où c'est dommage, voilà, que encore une fois, ce soit plus ceux qui ont le pouvoir, l'argent, qui y étaient, plus que des vrais passionnés qui auraient pu encourager, qui auraient pu soutenir, et se dire, bah voilà, une chance incroyable, quoi.
Alors attends, parce que je connais pas grand-chose au tennis, mais je crois qu'on n'encourage pas au tennis. Enfin, j'ai pas entendu des cris dans le tennis. Hein.
Alors oui, tu as complètement raison. Il y a pas les chants et tout ça comme au foot. Le vrai côté.
Est-ce qu'il y a de la bière? C'est peut-être parce qu'il y a pas de bière.
Il y a, je crois que c'est légal au foot. Je crois qu'il y a dans les stades en France, il y a de la bière sans alcool, mais il y a pas d'alcool.
D'accord.
Au rugby, il y a de l'alcool et au tennis, je crois qu'il y a de l'alcool.
Sobre les mecs, d'accord.
Non, il y a de l'alcool quand même, je crois. Enfin, c'est autorisé.
Voilà, ouais, okay.
C'est pas nécessaire, mais c'est autorisé. Et du coup, non, il y a quand même un encouragement. Tu fais un point, le point il dure un certain temps, les joueurs ils vont à droite, à gauche et tout ça. Bien sûr, quand t'es un spectateur, tu te lèves, tu cries à la fin du point.
Okay.
Mais surtout pas pendant les points. C'est ça qui est très mal vu. C'est le côté, voilà, autant au foot, dans d'autres sports, tu encourages tout le temps.
Tu cries tout le temps.
Autant, voilà, là, tu attends la fin du point pour encourager, pour féliciter, pour tout ça, quoi.
Oh, c'est beau le tennis. On va se faire une pause. Jocelyn Salé, on parle tellement que. Mais c'est tellement pertinent ce que tu dis, parce qu'on apprend plein de choses en même temps. Si vous débarquez à l'instant, vous êtes sur RKS dans l'émission Escom Sport. On fait un retour, un petit tour dans le passé là. Nutty, tout de suite. C'est.
En effet.
Elle te rend dingue sur RKS. Ne bougez pas, on arrive juste après.
Le jour se lève encore ici-bas, mais la vie n'a plus le même éclat. Et si le soleil brille, baby, il ne brille plus pour moi. La journée s'annonce claire et limpide, mais dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là.
Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding. Boy, quand elle whine dans son shot. Et y'a pas que chez toi qu'elle a causé bien choc, elle est trop belle. S'il est trop maligne pour toi, tcho. Dis-toi qu'une fille comme elle ne se dompte pas, laisse courir à boy, car ça devait finir comme ça. Un nom fantôme de plus sur son agenda. Quant à toi, oublie-la, elle a déjà une nouvelle proie. L'option où elle levait, t'as perdu tous tes droits. Tu cries zim, zima. Elle ne reviendra pas même avec tes. Elle ne veut plus de toi, elle te rend dingue.
why quand elle a son poum poum chante. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding 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 quand elle whine dans son chante. Et y a pas que chez toi chum,
rien ne sert de lutter, le temps ne pourra jamais les passer. À quoi bon résister, car dans mon âme son image est gravée.
L'amour c'est pas juste belle bande dans Batty Rider, ok, besoin plus pose pour garder forme. Là, sa mamzelle, pas ni temps pour bao, pas ni temps pour vraiment ça. Oh là, si ou pas tenir l'esprit pour contrôle bon tala, ou t'es ni à savent que ça te caille fini comme ça. Boy, pas femme, t'es ta oublié histoire au tala. Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum.
Quoi,
chat, et ton problème, c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding. Boy, quand elle whine dans son chat, et y'a pas que chez toi qu'elle a causé.
La nuit se couche encore ici-bas, les soirées n'ont plus le même éclat. Et si la lune brille, baby, elle ne brille plus pour moi. Les étoiles se font claires et limpides, mais dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là.
Ça fait du bien d'entendre ça de nouveau, c'était Nutty, elle te rend dingue sur RKS.
RKS, S comme sport.
S comme sport. S comme sport, ça continue justement avec du tennis pour ce soir et c'est notre invité Jocelyn Salé qui nous en parle, toujours en forme.
Toujours, toujours.
Oh, c'est beau. Alors bien entendu je n'ai pas suivi Roland Garros, mais il y a un truc qui est venu à mes oreilles, c'est Nelson Monfort qui a fait une Nelsonade comme disent les journalistes. Est-ce que tu peux nous en parler?
Yes, alors justement là, juste avant Naughty, on disait qu'il n'y avait pas grand monde dans les tribunes.
Yeah.
Faut, en plus c'est 1000 personnes, faut remettre ça sur l'ensemble de tout Roland Garros, c'est-à-dire que c'est pas un seul court de tennis, hein, c'est une petite vingtaine, même une bonne vingtaine. Du coup 1000 personnes dispersées un peu à droite et à gauche selon le match qu'il peut y avoir sur le grand court ou quoi que ce soit. Bah il y a pas grand monde quoi. Du coup ça résonne, il y a une acoustique qui est très bonne.
Ouais.
Même peut-être un peu trop bonne pour Nelson Monfort qui lui présentait une émission pour France Télévisions et qui s'exclame, hein, qui était content apparemment.
Pop.
Et c'est l'arbitre qui l'a interrompu en mode monsieur le journaliste s'il vous plaît. Voilà, le match est interrompu parce qu'on entendait justement le journaliste présenter une autre émission à côté.
Parce qu'une nouvelle fois, on ne fait pas de bruit au tennis. Enfin, voilà.
On ne fait pas de bruit, mais là c'était intéressant justement quand il n'y avait pas de spectateurs parce qu'on entendait les joueurs se parler à eux-mêmes, les joueurs parler, poser des...
Schizophrène alors un peu.
Des vilains mots. Alors le tennisman est très schizophrène.
Ouais, d'accord.
Ouais. Le tennisman se parle à lui-même en utilisant la plupart du temps son prénom et généralement t'es pas bon.
Ah ouais, bah, d'accord.
Même quand il y a le public, on va reparler d'un joueur français qui s'appelle Benoît Paire, qui est connu pour sa fameuse phrase la chatte,
non,
la chatte,
qu'il a. C'est quoi ça encore?
Le mec, c'est bon, il est un peu, voilà, il est un peu. Je sais pas.
C'est qui t'a dit ça?
Benoît Paire. On en a parlé un peu l'an dernier aussi. C'est un joueur qui se lâche, qui est très doué, mais qui a des moments, voilà, et on a l'impression qu'il vient sur le terrain sans son cerveau ou sans son envie ou sans les deux. Et du coup, bah là, il s'adressait presque à l'adversaire en disant putain la chatte qu'il a. Voilà. C'était une histoire de chance, selon lui, et pas de...
Ah, et pas de chat, pas de félin.
Ou de... Oui, c'était ça. Voilà.
D'accord, ok. Oh là là, cette histoire. Bon, merci pour ces anecdotes. On va quand même parler de ce qui s'est passé avec les Français, au moins, et les résultats.
Yes.
On va commencer avec les filles.
Allez. Alors, le tableau féminin, il faut savoir que le tableau féminin, il est quand même très ouvert, dans le sens où, en plus de ça, il y a des joueurs qui décident de participer ou pas au tournoi avec les conditions Covid, etc.
Ah oui, d'accord.
Là, sur le tableau, par exemple, il n'y avait pas la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, ni la numéro 3 Naomi Osaka, qui venait de gagner le tournoi à New York, justement, à l'US Open.
Moi, j'en étais resté au Sir Williams, mais donc voilà.
Et il y avait quand même Serena et...
Elle joue encore, c'est vrai.
Serena joue encore.
Ah, moi,
elle
je
a une
ça,
petite fille qui peut-être, peut-être qu'elle joueront un jour toutes les deux en double, je sais
incroyable.
Pas.
Incroyable.
C'est assez dingue.
Mais à quel âge je la connais depuis toujours. Enfin,
elle a le même âge que Federer, je crois qu'elle a 38 ans.
D'accord.
On va vérifier ça. Mais pour moi, elle a 38 ans. Et bah, elle a tout gagné. Hein. C'est niveau des chiffres, c'est absolument monstrueux ce qu'elle a fait. Mais cette année, elle passe pas le premier tour.
Ah, la vieillesse arrive.
Il y a voilà, il y a des conditions sur terre battue. La terre battue, c'est pas non plus son sa meilleure surface.
Ouais.
Et comme tu le dis, bah voilà, il y a l'âge, il y a une jeune génération qui arrive aussi
derrière. Qui pousse,
derrière,
c'est oui.
Qui pousse et c'est un tableau qui est très très ouvert. Pas de numéro 1, pas de numéro 3. Là, du coup, la numéro 2, Simona Halep, elle passe pas les huitièmes de finale. Elle perd contre la future gagnante qui s'appelle Iga Świątek.
Que tu connaissais, bien sûr.
Que je connaissais parce que je suis... non, honnêtement, j'ai découvert cette joueuse-là.
Même les salles de Montfort, elle a découvert.
Sans doute aussi, parce qu'il n'est pas plus compétent que moi.
Mais
voilà, Iga Świątek, je ne connaissais pas du tout. Pour la petite anecdote, elle joue du coup la tête de série numéro 1. En absence de la numéro 1 mondiale, c'est la numéro 2 qui est tête de série numéro 1.
Il faut suivre. Attends, je prends un stylo et il faut faire des.
Tête
des
de plans. Série, en gros, c'est sur le tournoi, ça représente les meilleurs classés. Vu que la numéro 1 mondiale n'est pas là, la tête de série numéro 1, ça devient la numéro 2 mondiale, tout simplement.
Tout simplement.
Et du coup, bah, la tête de série numéro 1, c'est Simona Halep, qui a gagné déjà Roland, qui est une très très bonne joueuse.
Qui a gagné Roland, tout va bien.
Qui a gagné Roland Garros.
Bon.
Et l'an dernier, contre Iga Świątek, il n'y a pas eu photo, elle l'a battue 6-1, 6-0, ça a duré même pas une heure, il me semble. Et là, elles se raffrontent toutes les deux un an après au même stade de la compétition.
Et verdict alors ?
Et verdict, bah, du coup, c'est Iga Świątek, la polonaise, du coup, qui cette fois-ci lui met 6-1, 6-2.
C'est bon,
il y a eu une
vengeance.
Petite progression en un an, tu vois.
Non, c'est bien.
Et impressionnante, une joueuse vraiment, vraiment impressionnante, hein, qui a 19 ans, qui est au plus haut niveau depuis 2 ans, qui est passée là avec le tournoi, en gagnant le tournoi, elle est passée de la 54e place à la 17e place mondiale.
Mm-hmm.
C'est quand même un sacré bond.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Pour la petite anecdote, c'est la première polonaise, ou même la première personne de nationalité polonaise, hommes et femmes confondus, qui gagne un tournoi majeur, un tournoi du Grand Chelem.
C'est beau.
C'est voilà, elle a écrit un petit peu l'histoire de son pays, de son sport. Voilà.
Pendant
le Covid.
Belle histoire. Mais est-ce que ça compte ? Oh, tout de suite. Bien sûr que oui, je le vois faire.
Non, bien sûr que ça compte, bien sûr que ça compte, parce qu'elle sort quand même la favorite, hein, faut pas se mentir.
Voilà, faut oublier ça.
Et derrière, voilà, elle a pas perdu un set de toute la quinzaine, elle a roulé vraiment sur tout le monde.
C'est beau.
Ça a été assez impressionnant. Et pour revenir aux Françaises, du coup, on en attendait beaucoup de Caroline Garcia, c'est un peu la chef de file du tennis féminin français. Bon, elle fait un bon parcours, elle perd en huitième de finale contre Svitolina ukrainienne, qui, pour la petite histoire, c'est la copine de Gaël Monfils, qui est un joueur français également, et qui, moi, pour le coup, je l'aurais vu favorite, Svitolina.
D'accord.
Du coup, voilà, pas du tout à rougir de sa performance, mais la grosse performance française, c'est Fiona Ferro, qui, depuis la reprise du Covid, elle était invaincue. Elle était sur 3 tournois gagnés, 0 défaite, voilà, même les plus gros joueuses, elles leur roulaient dessus. Et il a fallu l'américaine, du coup, finaliste, Sofia Kenin, pour l'arrêter. Mais voilà, Fiona Ferro, je pense qu'on va en entendre parler encore, parce que dans l'attitude, dans le tennis, dans tout ça, elle lâche rien, elle est toute jeune et elle est en train de monter très très fort.
Retenez bien, relis son nom alors.
Fiona Ferro.
C'est noté, je vais mettre tout mon argent dessus la prochaine. Voilà.
Et même un autre nom, allez, si tu veux, Fab, si tu veux parier ta maison l'an prochain. Elle s'appelle Elsa Jacquemot. Alors, je pense que le grand public, moi, j'en avais pas entendu parler non plus avant Roland Garros. Elle, la particularité, c'est qu'elle a 17 ans, elle a gagné le tournoi junior, en fait.
D'accord.
Parce qu'en même temps que les pros, les hommes, les femmes, les doubles et tout ça, il y a les jeunes aussi qui jouent. Et Elsa Jacquemot, elle a gagné à 17 ans. Elle est actuellement 500e mondiale. Tu vois, elle est encore loin. Elle a
mais il classe jusqu'à loin, mon sang.
Ouais, ça va très très loin. Ça va même au-delà de la millième place. Hein.
Ah ouais.
Après, au bout d'un moment, ça ne veut plus grandir, dire grand-chose, bien sûr.
Je veux bien te croire.
Mais voilà, elle aussi, elle monte. Elle a 17 ans. Pas eu de grandes difficultés sur le tableau. Et on va en entendre parler, c'est sûr et certain.
Oh, c'est bon.
Mais voilà, une Française qui gagne à Roland quand même. Sachant qu'il y en a eu une deuxième. Et ouais, incroyable. Si je te dis Kristina Mladenovic, ça te parle ou pas du tout?
Venus Williams. Non, je ne sais pas.
Elles sont cousines.
Ah voilà, non, ok. Bon.
Alors, Kristina Mladenovic, elle est française, hein, faut pas se laisser avoir.
Voilà.
Elle a un très très bon niveau, mais surtout en double.
Ah,
en double,
mais les gens regardent le double et il y a un intérêt pour le double ou...
Il y a l'intérêt médiatique, c'est beaucoup moins diffusé. Ah, par exemple, là, France Télévisions, ils diffusaient vraiment que les simples. Les simples, hommes et femmes, mais les doubles, c'était vraiment quand il fallait se meubler entre deux, tu vois.
Mais pourquoi c'est moins bien, ça va moins vite? Pourquoi deux, c'est...
C'est différent, parce que du coup, comment dire, je vais pas dire que ça dénature le sport, parce que ce serait complètement faux, mais c'est plus une personne contre une personne. C'est, du coup, on sort du côté individuel du tennis.
Ah oui, parce que voilà.
Et après, c'est des règles qui sont complètement différentes. Le terrain est plus grand.
Ah d'accord, je savais pas ça.
Il y a une vraie logique dans la façon dont les joueurs se déplacent, dans
on
la technique, tout
des
ça.
Choses sur RKS.
Et des joueurs qui sont très bons en double ne seront pas forcément bons en simple.
Ah, ça c'est dommage par contre.
Comme je suis désolé, mais comme Kristina Mladenovic qui a eu du mal ces derniers temps en simple, mais qui par contre en double est je crois numéro 2 mondial avec sa collègue hongroise Timea Babos.
Mais tu changes de partenaire des fois ou pas du tout?
Ouais, tu changes, tu fais selon les affinités, selon comment tu complètes, et t'es même pas obligé de jouer avec quelqu'un de la même, du même pays que toi.
Ouais, je vois ça, j'ai entendu.
Par exemple, la paire là c'était France-Hongrie. Et du coup, c'est pas la première fois qu'elles gagnent, elles sont toutes les deux très très douées en double. Et voilà, encore une Française qui a soulevé le trophée à Roland, mais pas le simple.
C'est beau. C'est beau. Et chez les mecs?
Et chez les mecs,
si t'as fini avec les filles,
ouais,
bien sûr.
Chez les mecs, c'est, on va dire, c'est un peu plus fermé. C'était un peu la même histoire l'an dernier, où depuis 15 ans, il y a une domination de vraiment trois grands messieurs qui sont Nadal, Djokovic et Federer.
D'accord.
La Federer, bon, qui a 38 ans, il n'était pas là, il s'est fait opérer, il s'est servi de la pause Covid pour se faire opérer, pour revenir à tout ça.
Ouais.
Mais même à 38 ans, il a annoncé que l'an prochain, il était là. Et qui, voilà, quoi. Enfin, pas forcément à Roland-Garros, mais qui jouerait, et qui jouerait au plus haut niveau. Il est encore numéro 3 ou 4 mondial, si je te dis pas n'importe quoi.
Ah, ça,
ouais. Et quand même. Et du coup, numéro 1 et numéro 2, Nadal et Djokovic, c'était l'affiche de la finale que tout le monde attendait, on va dire, parce que c'est les deux favoris.
Mais il n'y a pas eu de surprise alors, c'est pas possible.
Il y a eu des surprises, mais voilà, la finale,
savoir à quoi ça sert d'aller voir le film si on connaît déjà la fin.
Il y a eu des surprises, il y a surtout des jeunes qui montent, parce que là, tu me dis, Federer, il a 38 ans, Djoko, il a, si je te dis pas de bêtises, il a 33 ans, Nadal il a 34 ans. C'est-à-dire que ça commence à devenir presque des papilles pour le sport.
Mais en même temps, on en entend parler depuis tellement longtemps.
Ouais, ça fait 15 ans, même plus pour Federer, qui gagne absolument tout.
Pénible ça.
Enfin, absolument tout. Ils ont laissé quelques miettes à certains. Par exemple, petite anecdote sur le tournoi à New York. Le favori c'était Djokovic parce qu'il n'y avait pas Nadal, il n'y avait pas Federer.
Ouais.
Djokovic a trouvé le moyen de se faire disqualifier.
Comment il a fait ? Il avait le Covid.
Il n'avait pas le Covid, mais à un moment donné, il était en difficulté sur le premier set d'un match. Il va pour se débarrasser de la balle qu'il avait dans la poche. Il met un coup de raquette sur la balle. Manque de bol, la balle est arrivée en pleine tête d'un juge de ligne.
Mais non !
Et la juge de ligne, elle était... peut-être que certains ont dit qu'on en avait rajouté, etc. Voilà. Mais à partir du moment où sa balle a touché quelqu'un, c'est une disqualification. Qu'on s'appelle Djokovic.
C'est dans les règles, ça.
C'est dans les règles. Il y en a d'autres qui sont fait disqualifier. Je pense notamment à John McEnroe, il y a bien longtemps, qui était un peu coutumier du fait.
Mais il n'a pas fait exprès, normalement. Enfin,
il a pas fait exprès. Mais c'est pour ça que, par exemple, moi, je parle de tennis et pas de foot. C'est parce que on transige pas et qu'il n'y a pas de juste milieu. Il a fait exprès, il n'a pas fait exprès. Il l'a fait, c'est maladroit. C'est le premier à être désolé. Il s'est excusé tout de suite.
Ouais.
Mais voilà, il l'a fait. Et merci, au revoir.
Oh là là, pas de bol, tu vas avoir les boules.
On plaisante pas.
Ah ouais, c'est fou, ça.
Mais du coup, tu voulais des surprises. Il y a eu des jeunes qui montent. Moi, j'aime beaucoup le petit italien Yannick Sinner, 19 ans.
Okay.
Et il a fallu justement que Nadal s'emploie pour le sortir. Sinon, ça monte fort. Et parmi les petites surprises, on a eu un petit Français qui s'appelle Hugo Gaston.
Mec.
Je suis sûr que même toi, t'en as entendu parler, c'est pas possible.
Non.
Même pas.
Non.
Petit Français, 22 ans, même pas 20 ans. Il était 237e mondial.
Ça me fait rire, ces classements.
Okay. 239e mondial.
Top 300, quoi.
Top 300, je sais même pas si on parle de top 300. Même là, avec ses quelques victoires, il approche même pas il rentre même pas dans le top 100, il est 150e encore.
Ah, c'est horrible ça.
Mais il a quand même sorti du lourd Stan Wawrinka, peut-être que ça te parle. C'est l'un des seuls qui a gagné des grands titres avec Nadal et tout qui a gagné notamment à Roland Garros.
C'est venu jusqu'à mes oreilles, ce nom.
Spécialiste de terre battue. Ouais. Et ça se passe en 5-7. Il s'était accroché. C'était un match fou. Je pense qu'aucun bookmaker voyait Hugo Gaston gagner, vraiment.
T'as perdu des sous, ça veut dire ça.
je me suis abstenu, je crois, sur ce match.
Hein,
je me suis abstenu.
Si, ouais.
Je le sentais pas, justement. mais voilà, Hugo Gaston qui sort vraiment le tournoi de sa vie. Pour donner un exemple, à 20 ans, il a gagné plus d'argent sur une semaine à Roland-Garros que sur toute sa vie réunie dans le tennis.
Allez, parlons d'argent, justement.
C'est triste, mais c'est un peu comme ça quand on voit combien a gagné un joueur. C'est là que tu te dis, lui, s'il a dépassé un certain nombre de millions, il a quand même gagner des trucs.
Et tu sais ce que ça fait en sous là ou pas?
Là, le gagnant de Roland-Garros, je vais pas te dire des bêtises, mais il a gagné entre 2 et 3 millions quand même.
D'accord.
Et des joueurs comme Nadal ou Federer, par exemple, dans la carrière, ils sont entre 100 et 150 millions de gains.
D'accord. Et le petit jeune, tu sais ce qu'il a gagné là ou pas?
Et là, le petit jeune, je crois que c'était quelque chose, c'était entre 100 et 200 000, je crois.
Bien.
Ou entre 200 et 300 000. Donc c'est pas mal. Je crois qu'il a doublé tout ce qu'il avait gagné dans toute sa vie.
Ça rembourse un peu tous les entraînements qu'il a fait depuis tout jeune, surtout ça. Hein, parce que
c'est exactement ça.
C'est du temps perdu. Enfin, du temps. Oh là là, je vais me faire tuer. Du temps investi, consacré à cette discipline. Non, mais je pense à ses parents qui l'ont ramené sous la pluie, sous la neige, tous les jours de la semaine pour faire du tennis. Enfin, c'est un investissement, parce qu'on ne devient pas une star.
C'est un investissement et c'est un sacrifice. Hein. Ouais, j'ai côtoyé certains joueurs qui étaient justement entre l'amateur et le professionnel. Ouais. Et c'est extrêmement dur.
Ouais.
C'est extrêmement dur parce qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment que les, on va dire, les, et encore, c'est débattable, mais les 100 premiers mondiaux chez les hommes et chez les femmes qui s'en sortent financièrement.
Ouais. Donc le jeune, la 150.
Voilà, lui, il galère. Il a déjà la chance d'avoir un sponsor, d'être encadré, d'être suivi. Mais pour en gagner, il parlait vraiment de millions comme Federer ou comme Nadal, voilà, ils sont quelques-uns sur les doigts d'une main à gagner vraiment des millions au quotidien.
Incroyable.
En 2019, le sportif le mieux payé de l'année 2019, c'était Federer.
Ah non, c'est Federer, d'accord.
Devant Messi, devant Ronaldo.
Incroyable. Ça, ce sont des footballeurs.
Ce sont des footballeurs. Bien joué, Fab. Bien joué.
Ah, des fois, je connais un peu, des fois.
Bien joué. Et voilà, le tableau masculin, bah, pas beaucoup de surprises parce que c'est dominé par ces tueurs, en gros. Ah, quoi.
Ouais.
Et pour dire, là, il y a eu Nadal qui s'impose contre Djokovic. Il lui met un petit 6-0 d'ailleurs dans le premier, c'était assez surprenant, on s'attendait à un vrai gros combat de 5h, 6h que ça y joue, mais voilà, Nadal n'a pas fait de cadeau.
Ouais, il avait des choses à faire, il m'a dit. Ouais.
Il était pressé, je crois, d'ailleurs, il avait un peu froid aussi, il avait marre d'être à Paris, il voulait retourner sur les îles en Espagne. Et voilà, là, Nadal a égalé le record de Federer en gagnant son 20e Grand Chelem. Il y en a 4 par an, je te laisse voilà, sur une longévité, et c'était là par exemple son 13e, son 13e Roland-Garros.
Ah ouais, mais personne n'arrive à le sortir.
Personne n'arrive à le sortir depuis.
Incroyable.
Alors attends, je fais le calcul. Bref, dans ma tête, depuis 15 ans, depuis 2005, sa première victoire. Il après 2005, première année où il participe à Roland Garros, il gagne. Easy. Pour la petite anecdote, le mec qu'il a joué, il s'appelait Mariano Porta. Personne n'en entend parler, même dans le monde du tennis.
Ouais.
Tout simplement parce que Nadal est devenu Nadal, que lui, il s'est fait contrôler positif.
Ah.
Voilà. Pas au Covid, hein. Au dopage.
Ouais.
Et du coup, il a pris une suspension, je crois, de 8 ans.
Ah ouais.
Un truc super lourd, alors qu'il était en finale de Roland, que Nadal est devenu Nadal et que lui, bah peut-être qu'il vend des piscines dans le Gers maintenant, je sais pas.
Juré, c'est chaud ça.
Mais voilà, l'échange de parcours. Et pour revenir aux stats incroyables de Nadal, en 15 ans, il a fait.
Il s'est jamais fait choper. Enfin, je veux dire, il a.
Il a joué 100 matchs, c'était son 100e match. C'est son 102e match, la finale de dimanche. Il en a gagné 100, il en a perdu 2.
Mince.
Il y a un tournoi où il a abandonné parce qu'il était blessé. Mais il y a justement son adversaire d'hier, Djokovic, qui l'a battu à la régulière. Et un autre joueur dont on oublie un peu le nom, qui est Robin Soderling, qui l'avait battu à la régulière également. Mais sinon, 102 matchs, 100 victoires, 2 défaites.
Incroyable.
C'est juste hallucinant.
Ah ouais.
C'est
une machine. Est-ce qu'il est humain ?
C'est la question qu'on se pose beaucoup, même dans le monde du tennis, on se demande un peu.
Des stats pareils, ça lui fait.
Surtout sur terre battue, il a un jeu où il arrive à faire tourner la balle. Je crois que la balle, au plus rapidement, elle arrive à faire 4000 tours minute.
Ah ouais.
En plus de partir sur des services à presque 200, okay. 4000 tours minute, c'est-à-dire que quand elle va toucher le sol, elle va gicler forcément très très haut et les joueurs sont surpris par ce. Par ce rebond, quoi.
Bah écoute, un jour je regarderai d'ailleurs. Pendant la pause.
C'est impressionnant parce qu'il il met une puissance et une gifle dans la balle. Il suffit pas de la taper à plat, il faut mettre l'effet là. Voilà.
Qui va bien.
La gifler.
Vous êtes sur RKS si vous débarquez à l'instant et on va faire une petite pause musicale. Je fais un petit bond aussi dans le passé avec Alia, Destin Tragique, Alia, avec Try Again tout de suite sur RKS. It's been a long time, long time. I shouldn't have left you. Without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step, step two, step two. Think it, think it. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step, step two. Think it, think it, think it, baby girl. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Now would you be yourself or play a role? Tell all the boys I keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay up? Don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again and try again. Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again and try again. To you, you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, first you don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again.
next day? What about the next day? Said you don't wanna throw it all away. Bugging on the first day. What about the next day?
Sur RKS, bien sûr.
RKS, S comme sport.
S comme sport. S comme sport de retour pour parler de Roland Garros, ce qui s'est passé avec notre journaliste du jour.
Oh, c'est gentil.
Jocelyn Salé, attends, t'es notre consultant à chaque fois. Quand t'es à Roland Garros, quand t'es à du tennis, tu viens et tu, avec ton œil d'expert. Tu nous dis tout ce qui s'est passé. Justement, il s'en est passé des choses. On arrive sur la fin avec ce qui s'est passé chez les hommes pour la finale.
Yes. On est passé très vite aussi sur les joueurs français. On a parlé d'Hugo Gaston heureusement qu'il était là parce que sinon c'était un peu le générique de Koh-Lanta, tu vois. Après 4 jours, il n'en restera plus qu'un.
Ça mince.
C'est et heureusement qu'il était là, et à côté ceux qu'on attendait comme Gaël Monfils qui faisait avant le début du tournoi partie du top 10, c'est plus le cas. Et pareil, un petit tour, même pas un petit tour, il s'est fait taper au premier tour
par un
inconnu. Je pense que lui, dans son tennis, faut qu'il soit à fond physiquement, faut qu'il enchaîne les matchs, etc. Et là c'était un match de reprise aussi, quoi. Du coup il est tombé sur un joueur qui peut être très très bon quand il en a envie, et qui a été très très bon.
Voilà.
Avec des petits coups entre les jambes, des trucs comme ça.
C'était un peu spectaculaire quand même.
C'est deux hommes qui sont connus pour faire un tennis un peu spectaculaire.
Cool.
Bublik en face, c'est vraiment plus quand il en a envie. Il est très très doué, mais c'est une question de. C'est plus dans la tête.
D'accord.
Et pour revenir à la tête, on va aussi parler de Benoît Paire. Benoît Paire qui était sur, depuis la reprise, sur 4 défaites consécutives.
Aïe.
C'est celui qui était positif, pas de chance, à New York. Il a été connu pendant le confinement parce qu'il faisait... on sort du cadre du sport. Hein. Il faisait des apéros en fait pendant le confinement Stan Wawrinka, du coup, qui a perdu contre Hugo Gaston. Et les deux, ils racontaient un peu des conneries sur tout le monde, sur le tennis surtout. Et ils buvaient des canons surtout en même temps. Et voilà, il y a eu un ou deux où ça a fini un peu...
Ah mince.
Voilà, c'était un peu compliqué.
Il n'aurait pas pu jouer au tennis après, quoi.
Et du coup, ce qui lui a été reproché, c'était que, voilà, déjà, il donnait une image qui était un peu... qui n'était pas vraiment sportive, voilà.
Oui, c'est bien connu, les sportifs ne boivent pas.
Bah, ils ne font pas la fête. Disons qu'il fallait peut-être plus inverser les proportions, je pense, entre l'alcool et le sport. Bref. Et du coup, forcément, la forme physique, ça s'en est senti. Hein. Il a fait des matchs où franchement, c'est pas méchant, mais peut-être que même toi, tu l'aurais battu. Hein. Clairement, il avait pas envie. La balle, elle arrivait sur lui, il l'envoyait le plus loin possible parce qu'il se débarrassait du délire et qu'il avait pas envie. Tu vois, c'est une attitude où.
Ouais, les sponsors ont dû faire la gueule, non ?
Les sponsors ont dû faire la gueule et même le coach, circuit, ouais. Le circuit, je pense, aurait dû même peut-être le sanctionner pour non-combativité à un moment donné, je pense.
Ça aurait été comme illégitime.
Ça existe, hein, ça existe. Quand tu balances le match, voilà, tu t'es pas battu, t'as une amende, c'est le tennis, c'est comme ça.
Incroyable.
T'imagines dans d'autres sports ? Bref.
On veut pas de problème, Jocelyn Salé. Il s'appelle Jocelyn Salé. Voilà.
Et voilà, le tennis français attend encore, on va dire, la relève des ceux qui sont aujourd'hui plus de trentenaires. Je pense à mon fils, à Tsonga, que tu connais, Kinder Bueno.
Je croyais que c'était un joueur de foot, lui. Mais non, c'est un tennisman.
Oui, Joe Wilfried Tsonga joue au tennis.
Ah ouais, faut prévenir.
Et c'est de ces dernières années, c'est sans doute l'un des meilleurs joueurs français de ces 10, 15, voire même 20 dernières années.
Le nouveau Yannick Noah, parle-moi comme ça.
Il y a un peu de Yannick Noah, même si Yannick Noah reste le dernier joueur français à avoir gagné Roland Garros, à avoir gagné en Grand Chelem. Joueur masculin, il y a eu des femmes qui ont gagné en Grand Chelem.
Amélie Mauresmo.
Amélie Mauresmo a gagné, tout à fait.
Avoue que je t'épate un peu là.
Là, je
sors des noms au hasard.
Je suis surpris agréablement, mais ouais, absolument, absolument.
Ah bon, alors.
Mais voilà, c'est des joueurs qui, surtout Benoît Paire, qui sortent, on va dire, un peu trop du cadre de... Voilà, c'est des sportifs avant tout, quoi. Et du coup, il faut qu'ils fassent ce pourquoi ils sont faits, en fait, c'est-à-dire du sport, quoi. Et voilà, lui, il est plus connu pour ses frasques sur Insta, sur tout ça, et... Il faut, à mes yeux, en tout cas, qu'il se remette un peu plus au tennis, qu'il arrête un peu peut-être aussi de picoler et qu'il redore un peu son image. Parce qu'il est talentueux, c'est ça qui...
Mais tu dis qu'il arrive à la fin, il a 30...
Alors, il est plus jeune, il est un peu plus jeune, Benoît Paire. Je crois qu'il doit plus être autour de 27-28, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, il a quand même encore quelques années devant lui et je pense qu'il peut encore faire des trucs. Je ne dis pas qu'il peut aller gagner Roland-Garros ou quoi que ce soit, mais il peut en tout cas faire mieux que ce qu'il a fait ces derniers mois. Quoi.
De voir toujours la même gagner, franchement. C'est fou d'ailleurs qu'il y ait un tel engouement pour le tennis si on connaît à chaque fois la suite, la fin de l'histoire. Moi, ça
m'intéresse. Il y a des petites surprises, mais là, c'est vrai que quand tu dis la finale Djoko-Federer, c'est la plus grosse confrontation de l'histoire du tennis. Je crois que c'était, si je te dis pas de bêtises, c'était la 56e confrontation.
Quoi ?
Ou 57e, je sais plus.
Donc non seulement ils se connaissent, mais en plus, du coup, c'est un truc qu'on a vu et revu, quoi.
C'est un truc de fou. Et il y a, je me rappelle d'un tournoi en Australie où à la fin, quand on leur remet le trophée, les mecs, ils ont demandé une chaise parce qu'ils en pouvaient plus. Ils étaient au bout de leur life et ils ont tout donné. Et c'est le but du tennis, en fait, c'est que il faut être deux, en fait. C'est con, mais il faut être deux et deux très haut niveau pour pouvoir faire un beau tennis. Okay. Et quelqu'un qui va être très, très fort, mais qui va jouer contre quelqu'un qui est un peu moins fort, il va l'écraser et ça va pas être forcément beau à voir. Ah ouais. Alors que si les deux sont à leur meilleur niveau et qu'ils s'affrontent, ce qui était le cas de Nadal et Djoko en Australie, moins là Roland Garros parce que c'est Nadal qui lui a roulé dessus, mais voilà, quand les deux sont au top niveau, ça donne des, voilà, c'est limite à des étincelles quand la balle elle part, quoi.
C'est beau, les paroles d'un passionné, hein, on
peut-être plus dans mes yeux, ouais, les voilà. Étincelles, ouais. Les étincelles, et ce que je voulais te raconter aussi, parce que j'ai eu des étincelles moi-même dans les yeux, c'était pas à Roland, c'était juste avant à l'US Open, c'était la gagnante de l'US Open, Naomi Osaka, qui est japonaise métis, je crois que sa maman est japonaise, son papa est haïtien. C'était en pleine émeute aux États-Unis. Là, on sort aussi du cadre du sport, mais pour quelque chose qui...
Ça reste dans la conjoncture actuelle.
Voilà, et pleine émeute avec le Black Lives Matter, etc. Et le tournoi qui se passe aux États-Unis, elle jouait sa demi-finale. Elle a dit, moi, je ne veux pas jouer la demi-finale dans des conditions comme ça. Je ne veux pas jouer aux États-Unis tant qu'il se passe ça. Il y a eu aussi les équipes de basket, il y a eu d'autres sportifs qui ont rejoint ce mouvement-là. Et elle avait un masque différent chaque fois qu'elle rentrait sur le court, parce que forcément les joueurs ont le masque quand ils rentrent sur le court.
D'accord.
Et il y avait le nom d'une personne de couleur du coup qui a été oppressée par la police ou par le système américain chaque fois. Et elle s'est engagée, c'est-à-dire qu'elle arrive à la fois à gagner, à performer sur le court et à se dépasser, on va dire, le monde du sport pour s'engager pour des causes
humanitaires. C'est ce qui se passe à l'extérieur, quoi, du coup.
Elle réfléchit, elle sait, elle s'engage et elle n'a pas peur, sachant qu'elle a 22 ans, tu vois.
Bah, elle est mariée ou... enfin...
ouais, Je ne crois pas.
Bon, d'accord.
Elle est jeune encore, Fab. Ah, 22 ans. Mais voilà, je pense qu'il faut, il faut se servir de son pouvoir pour s'engager, mais pas à l'inverse, pour gagner une notoriété à la con sur des réseaux sociaux, pour faire des buzz et des trucs comme ça. Quoi. Que c'est dommage, et que là, il y a vraiment deux poids, deux mesures entre quelqu'un qui joue bien, qui gagne, qui a une bonne attitude, et qui, en plus de ça, s'engage du côté humain, on va dire.
C'est beau. Est-ce que tu as un mot de la fin pour finir notre interview de 1 heure, pour parler de ce Roland-Garros 2020?
Et bah, moi je suis content que c'est. Franchement, j'étais pas forcément optimiste et je suis content que c'est d'avoir revu du tennis, d'avoir. Que le tournoi soit allé au bout. C'était pas sûr, hein. Il y en avait plein qui disaient il va pleuvoir, il va faire froid, il va faire ci. Le tournoi il va se jouer sur 3 semaines tellement on va pas avoir le temps de faire tous les matchs. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de choses qui se sont dites, mais voilà, c'est ce que je retiens, c'est le retour du tennis. Et je terminais en ayant une petite pensée parce que j'ai des jeunes que je vois à mon club, dont un notamment qui était ramasseur de balles à Roland. Et ouais, ma dernière pensée, c'est pour les ramasseurs de balles de Roland, de tous les petits ramasseurs de balles qui sont passionnés et qui sont souvent un peu oubliés dans l'histoire. Les pauvres, là, pendant 15 jours, ils ont dû courir en short, en t-shirt, mais ils n'avaient pas le caouet. Hein. 10 degrés avec le masque et à faire un peu les larbins un peu du tennis en rendant les balles, etc. Quoi.
Ouais, mais s'ils sont pas là, il n'y a pas de... À moins qu'on fasse des robots encore, comme on dit en début d'émission.
On peut y penser. Bon, après, c'est des jeunes, c'est des fans. Hein. Ils voient leurs idoles au plus proche. Et voilà, c'est des moments inoubliables pour eux. Mais je pense qu'il voilà, il faut pas les oublier non plus et dire que voilà, ces jeunes qui font vivre aussi ce sport-là ont tout donné et ont assuré sur cette quinzaine-là.
Merci Jocelyn Salé, c'était l'émission SCOM Sport. On va se quitter avec une belle musique, c'est System of a Down, Chops Away sur RKS. Très belle soirée à vous.
suicide.